Merci beaucoup, bonjour à tous. C'est une joie d'être parmi vous ce matin. J'aimerais vous apporter les salutations de l'Église de Grasse. On a l'occasion assez souvent d'avoir des relations avec votre assemblée, parce que dans le conseil du CNEF 06, on est avec Mathias. On représente les églises du réseau FEF et on se réunit de l'autre côté là, de la place. On apprécie vraiment votre coin d'accueil très, très convivial avec les collègues. Et ça nous permet de savourer votre hospitalité. Et puis, j'ai aussi le privilège d'avoir un stagiaire qui s'appelle Jonathan. Jonathan Pierson, il me semble qu'il est venu ici une fois peut-être prêcher. Et en tout cas, il termine sa formation à l'IBG en troisième cycle. Et on est reconnaissant que Mathias ait accepté aussi de superviser, de l'aider à rédiger son mémoire de recherche, puisqu'il fait un mémoire de recherche sur les groupes de maisons. Alors peut-être que vous allez être sollicité par un petit formulaire et ce sera, merci alors d'y avoir collaboré, ce sera très utile pour lui. Voilà, il est en train de plancher là-dessus au mois de juin. Il faudra qu'il soutienne ce mémoire et qu'il viendra clôturer sa formation. Et ensuite, si Dieu le permet, nous avons prévu de l'embaucher comme deuxième pasteur à l'Église. Et on apprécie vraiment sa présence et celle de sa famille parmi nous. Voilà, que vous soyez bénis ce matin et je me réjouis de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Et je vais lancer un chronomètre pour pas être trop bavard. Je vous propose d'ouvrir nos Bibles dans l'Épître aux Galates. Nous allons lire un passage qui se trouve dans le chapitre 6, dans les versets qui approchent de la conclusion de cette lettre écrite par l'apôtre Paul. C'est probablement la première lettre qu'il a écrite dans son ministère. À un moment de crise où il allait, les spécialistes pensent qu'il était convoqué à Jérusalem pour rendre compte de la doctrine qu'il enseignait, parce qu'il y avait des personnes qu'on appelait des judaïsants et qui voulaient tirer la foi chrétienne dans le sens d'un respect des rituels de l'Ancien Testament, comme si la grâce de Christ ne suffisait pas et qu'il fallait aussi respecter à la lettre toutes les ordonnances de l'Ancien Testament, et notamment la circoncision. Et Paul, avant de partir à Jérusalem, il écrit cette lettre dans l'urgence. Et il y a beaucoup de... On n'a pas le temps de voir ça ce matin, mais beaucoup de signes qui montrent que cette lettre, elle a été écrite parce que Paul se faisait un grand souci pour ses frères et ses sœurs qui étaient venus à Christ et qui étaient en train de se laisser détourner de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ pour essayer de mériter le salut en faisant des œuvres conformément à la loi judaïque. Et Paul n'est pas en train de dire dans cette lettre que la loi est mauvaise, mais il est en train de leur dire, de leur expliquer que la loi est un guide pour mettre en lumière le fait que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin du Sauveur, promis dans tout l'Ancien Testament et qui est manifesté en Jésus-Christ. Et qu'une fois qu'on est... que ce Sauveur est le maître de notre vie, on n'a pas besoin de retourner à une application des règles qui annonçaient la venue de ce Sauveur. Donc cette lettre, c'est une lettre qui est forte, qui est un peu une lettre coup de poing. Paul, dès le début de l'Épître aux Galates, il rentre dans le vif du sujet, et peut-être plus rapidement que dans les autres lettres qu'il a écrites auparavant. Et là, on approche de la conclusion de la lettre. Et j'ai choisi une péricope, c'est-à-dire un passage cohérent en lui-même, qui se trouve donc au chapitre 6, on va lire les versets 6 à 10, et on va voir parmi les choses que Paul a à cœur de partager avant de se séparer épistolairement de ses auditeurs, parmi les choses qu'il a partagées ce matin avec nous aussi, à travers les siècles qui nous séparent, que le Saint-Esprit nous enseigne et nous parle par sa parole qu'il a inspirée à son serviteur Paul. Donc, Galates 6:6, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'Esprit récoltera de l'Esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, et j'ai pris ce tableau impressionniste qui montre un semeur parce qu'il me semble que le thème qui ressort de ce qu'on vient de lire met en valeur cette vérité scripturaire, on récolte ce qu'on sème. C'est une image agricole qui est utilisée à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Le Seigneur l'utilise dans la parabole du semeur, mais ici, l'enseignement n'est pas exactement le même que dans la parole du semeur, mais l'image est la même. On récolte ce qu'on sème. Et si on peut passer à la diapo suivante, et ce sera on restera là-dessus, c'est juste pour vous rappeler le plan et vous conduire à travers ce qu'on va essayer de voir. Premièrement, la semence de la parole dans l'église locale. Deuxièmement, cette bonne semence dans nos pensées et nos actes. Et troisièmement, nous récoltons la vie éternelle. Voilà un petit peu ce que Paul exprime, ou ce que le Saint-Esprit exprime dans ces versets de Paul aux Galates. La semence de la parole dans l'église locale. Et on commence avec ce verset dont on pourrait se dire, je ne vois pas bien le rapport avec le reste de la péricope, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Là, on est en train de dire que ceux qui se consacrent à l'enseignement de la parole, pour se consacrer à l'enseignement de la parole, ça exige, et ça exige depuis 2000 ans, et depuis bien avant même, dès l'Ancien Testament, des gens qui prennent l'essentiel de leur temps à se placer devant le Seigneur et à étudier sa parole. Ça prend du temps, ça demande de se laisser travailler, ça demande aussi qu'on puisse s'y consacrer sans que ça se fasse au détriment des aspects matériels de notre vie. Jésus dit aux 70 disciples qu'il envoie prêcher la bonne nouvelle en Israël. L'ouvrier mérite son salaire. La part des Lévites et des sacrificateurs dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas de territoire propre, ni d'activité lucrative. Ils n'étaient pas invités à labourer la terre pour se nourrir comme tout le reste du peuple d'Israël, ni d'avoir des troupeaux, mais ils étaient au service de Dieu et il y avait un roulement qui assurait que régulièrement à Jérusalem, il y ait des gens qui assurent en continu l'adoration et le culte d'Israël, et puis dans chaque ville importante, aussi des référents de la loi qu'on pouvait aller consulter pour dire « on a tel problème, que nous dit le Seigneur par rapport à tel sujet ?» et qu'il y ait des gens qui connaissent ce qu'on appelait avant la Torah, c'est-à-dire ces premiers livres écrits par Moïse, les cinq premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et qui enseignaient la volonté de Dieu. Et il fallait des personnes qui la connaissent bien. Et Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il dit « Le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Et je trouve touchant que Paul et le Seigneur, à travers lui, nous sensibilisent au fait que l'Église, ce n'est pas simplement l'assemblée des gens qui croient en Jésus. Et c'est une belle chose et c'est le Seigneur qui ajoute par son esprit ceux qui sont sauvés, comme c'est dit dans les Actes. Mais c'est aussi un groupe qui a conscience de devoir s'organiser concrètement, matériellement, pour avoir des locaux accueillants, pour avoir un petit garçon et une petite fille qui nous accueillent le matin avec des croissants, qui nous disent « bienvenue » et qui prennent soin de nous, pour avoir une sœur qui nous salue, qui nous invite à entrer. Tout ça, ça mérite une organisation, ça mérite une structure. Et demandez aux responsables de l'Église, ils vous diront que c'est parfois souvent des joies, mais aussi du souci, des préoccupations, des considérations matérielles dont on doit rendre compte au moment des assemblées générales. Et il y a cette lucidité de la parole. Si l'Église existe, c'est aussi, elle doit aussi exister avec le soutien réfléchi et intentionnel des membres qui la composent. S'il n'y avait pas des gens qui, depuis 2000 ans, font un effort, ont fait un effort, ont pris sur eux-mêmes, sur leurs ressources, sur leurs biens, sur leur temps, pour consacrer du temps et pour organiser la proclamation de l'Évangile, nous ne serions pas là. Dans Éphésiens 4, il est parlé des bergers enseignants qui dirigent le troupeau de Christ. Et je crois que, comme vous, nous avons une conception de la direction de l'Église, qui est une conception collégiale. On pense que c'est les anciens que le Seigneur appelle à enseigner, qu'ils soient bénévoles ou professionnels. On ne fait pas de distinction. Et le fait que je sois pasteur à temps plein dans mon Église ne fait pas que j'ai une voix dominante. J'ai le même pouvoir que mes collègues qui sont anciens et qui, eux, ont un autre, exercent une profession à part. Mais qu'il y ait une part des ressources de l'Église qui servent à proclamer l'évangile de façon intentionnelle et, quand c'est possible, à payer quelqu'un qui, sur son temps professionnel, va réfléchir, va aider, va soutenir, va prier, va méditer la parole de Dieu, eh bien, c'est quelque chose qui est tout à fait biblique et qu'on voit là sous la plume de Paul dans les Galates. Et vous allez me dire, quel est le rapport avec le thème de la semence? Quel est le rapport avec le thème du semeur et on récolte ce qu'on a semé? Eh bien, il y a une forme de cercle vertueux. L'Église s'organise pour que la parole de Dieu puisse être semée. Qu'elle soit semée, qu'il y ait des bergers qui édifient l'Église, qui la font grandir dans la connaissance de l'Écriture. Et le fait que ces bergers soient soutenus par la libéralité des membres et des fidèles, ça permet de continuer cette proclamation de l'Évangile. Ça forme un cercle vertueux. La bonne semence de la libéralité permet la semence de la parole qui elle-même annonce la récolte à venir. Et voilà, le cercle est bouclé et les générations de chrétiens sont appelées à être fidèles de cette manière-là. On peut bénir par les prières, on bénit aussi par ce qu'on donne concrètement de nos vies au Seigneur, du temps libre, du matériel, des compétences techniques, et puis de nos revenus, de nos ressources. Deuxièmement, semons cette bonne semence dans nos pensées et dans nos actes. Et il y a cette mise en garde de Paul qui est là au verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Pourquoi Paul dit-il cela? On ne peut pas agir à l'encontre de ce que Dieu nous commande et récolter une vie bénie. Vous savez, parfois, on peut être tenté, dans notre société de consommation, de considérer que la foi est un bien de consommation comme un autre, et que je peux choisir, je peux filtrer ce que je vais accepter de l'Écriture. Moi, je veux bien Jésus Sauveur, mais je ne veux pas Jésus Seigneur. La foi, ce n'est pas un forfait mobile où tu choisis à quelle hauteur tu t'engages avec ton fournisseur d'accès. C'est tout ou rien. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Christ, il est Sauveur et Seigneur. On ne peut pas dissocier les deux. Et Paul écrit cela aux Galates parce que les Galates étaient tiraillés entre deux extrêmes. L'un, c'était de dire, on va mériter notre salut parce que nous, on va être plus chrétiens que les chrétiens. On va se faire circoncire, on va devenir juif. Et Paul, qui pourtant est juif de naissance, pharisien, né de pharisien, il leur dit, mais vous vous trompez, c'est pas la bonne voie. Vous avez commencé dans la grâce, vous voulez finir dans la loi, c'est une impasse. Vous ne mériterez pas la grâce de Dieu. Par définition, la grâce ne se mérite pas, elle se reçoit. Elle vient de l'amour de Dieu, inconditionnel pour nous. Et quand on réalise ça, vous savez ce que c'est le danger? C'est de dire, oh bon, ben si on a tout par grâce, alors allons-y, open bar, continuons de pécher, puisque de toute façon, le Seigneur nous a sauvés et qu'il nous aime. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, on le récoltera. Paul dit, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté une excuse pour vivre selon la chair. La grâce n'est pas l'occasion pour nous de continuer à suivre les mauvais penchants de notre cœur naturel, mais elle est l'occasion de nous émerveiller du Sauveur que le Seigneur nous donne en Jésus-Christ et de marcher à sa suite en l'imitant. Semons, nous dit Paul, la bonne semence sans nous lasser et nous aurons une belle récolte au moment voulu. Il y a un principe de cause à effet qui est logique avec cette image agricole et qui est pris pour une image de notre foi. Osée dit, à propos du peuple d'Israël, en Osée 8:7, « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. » C'est devenu proverbial, hein, il y a plein de gens qui utilisent ce proverbe sans savoir qu'il vient de la Bible. Quand on sème le vent, on récolte la tempête. Et là, Paul nous exhorte à l'inverse, à semer de bonnes choses pour récolter de bonnes choses, des bénédictions. Nos actes, nos choix sont une semence qui ont des conséquences dans nos vies quotidiennes et qui nous apporteront une récolte. Dans le chapitre qui est juste précédent, Paul il a opposé d'un côté le fruit de la chair et le fruit de l'esprit. Je ne vais pas vous relire tout ce chapitre, mais il énumère aux Galates qu'est-ce que ça donne dans une vie et qu'est-ce que c'est quelqu'un qui marche loin du Seigneur. Eh bien, c'est quelqu'un qui est impur, qui est débauché, qui est idolâtre, qui s'adonne à la magie, qui est rempli de haine, qui favorise les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et qu'est-ce que c'est le fruit de l'esprit ? Galates 5, 22, moi je vous encourage à apprendre ce verset magnifique par cœur. Le fruit de l'esprit, qu'est-ce que produit le Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu ? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Franchement, si on avait ces choses pleinement, et quand on a ces choses pleinement, est-ce que ce n'est pas le bonheur, ça ? Combien de gens sur Terre, autour de nous, dans notre société, courent après des futilités pour essayer de donner un sens à leur vie, alors que nous, en Jésus-Christ, on a ça. Si vous êtes rempli d'amour et que vous avez la paix et que vous avez la joie, mais vous êtes heureux, quelle que soit la condition matérielle. Et on est dans une région que j'aime beaucoup, où j'ai grandi, mais où la réussite sociale, ça, c'est important hein, sur la Côte d'Azur. Hein. La taille de ma maison, la taille de ma voiture, la taille de ma piscine, hein, ça c'est important. Hein. C'est on bosse, hein, on bosse pour avoir le statut social qui va faire de nous un CSP+, ou quelqu'un qui va faire briller les yeux quand on passe dans notre belle voiture toute chromée. Pascal, le philosophe Pascal, Blaise Pascal, qui s'était converti par une expérience bouleversante, il disait « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu qu'on ne peut remplir qu'avec Dieu. » Mais notre société, elle essaye de remplir ce vide avec des trucs qui ne rentrent pas, qui ne sont pas satisfaisants. C'est comme s'il y avait un gouffre immense et vous lancez un petit caillou pour le petit caillou de la réussite, le petit caillou des loisirs, et vous allez remplir ce vide. Mais non, ce vide, il peut être rempli qu'avec Jésus-Christ. Semons la bonne semence, ces fruits de l'esprit, ce fruit de l'esprit. Si je sème dans mes pensées, dans mes actes, dans le but de satisfaire ma nature propre, je vais être déçu. Et ce que je vais récolter dans ma vie, quand bien même serais-je chrétien, sera décevant. Malheureusement, on peut tout à fait être chrétien, et il m'arrive d'en rencontrer. Et il m'arrive de croiser le regard de temps en temps, dans le fond de mon miroir, comme dirait Jacques Brel, d'un chrétien qui ressemble à ça, qui essaye de remplir sa vie avec des choses qui ne viennent pas du Seigneur et qui ne l'honorent pas. Et mes frères, mes sœurs, on peut être bloqué dans sa sanctification et dans sa marche avec Christ parce qu'on considère que tel domaine de ma vie, tel péché mignon, hein, cette expression horrible, hein, comme si un péché pouvait être mignon, tel petit défaut, je suis comme ça, je ne vais pas changer, j'ai mon caractère. Ah oui, mais ton caractère, c'est un gros péché qui te fait souffrir, qui fait souffrir tes proches et qui t'empêche de progresser avec Christ. Parce que tu ne remets pas ça entre les mains du Seigneur. Vous savez, la médisance, la jalousie, l'orgueil, ces péchés qu'on arrive assez bien à camoufler sous un vernis chrétien, ou à qu'on va exprimer avec un vernis spirituel, en disant « Ah oui, mais là, j'ai le droit de critiquer, j'ai le droit de... » Parce que c'est... Mon intention, lorsqu'elle est centrée sur moi, fait de moi une idole qui concurrence Dieu, qui concurrence Christ. Et c'est un péché aussi grave que le meurtre et l'adultère. Ne nous y trompons pas. Il n'y a pas de péché mignon. Ça n'existe pas. Est-ce que Christ est mort pour des choses qui seraient mignonnes. Et dans ce cas, si je vis une vie centrée sur moi, ou une vie où je me dis, mais chrétien, dans mes paroles et dans mes actes, c'est déjà pas mal, mais dans mes pensées, qui les voit ? Qui voit mes pensées ? Mais en fait, Jésus nous rappelle que eh bien, ce qui finit dans nos bouches et dans nos actes, ça vient de notre cœur. Et ce que je chéris dans mon cœur et dans mes pensées va finir par déteindre sur mon comportement. Vous ne pouvez pas dire « je déteste ce frère ou cette sœur, il m'insupporte et à chaque fois qu'il parle la bouche, j'ai envie de le claquer » et que dans vos actes, vous ne finissiez pas par exprimer cette absence d'amour, ce contraire d'amour, cette haine, sans parler du fait que notre Seigneur, lui, voit ce qu'il y a dans les cœurs et qu'on ne peut pas l'abuser. Et dans ce cas, ce que dit Paul, c'est que même les chrétiens peuvent récolter dans leur vie des choses désagréables, qui sont les conséquences de ce qu'ils ont refusé d'arracher du sol de leur cœur. Ces fruits de la chair qu'ils ont laissé pousser au milieu de la bonne semence et qui parfois l'étouffent. Ça m'est arrivé parfois de rencontrer des chrétiens et même des collègues pasteurs qui sont où le bilan de leur vie et de leur ministère, c'est de l'amertume. Et c'est attristant. J'espère qu'on n'entend jamais ça dans mes propos. Mais comment c'est possible? Si on marche avec le Seigneur, si on se laisse transformer par lui, je ne suis pas en train de dire qu'on a une vie parfaite et qu'on est capable de ne pas pécher. Et on va y venir. Mais si on marche avec le Seigneur nous donne sa paix. Et on doit la lui demander, et sa joie. Et ça nous bénit qu'on traverse un temps de deuil, un temps de maladie, un temps d'épreuve, un temps de licenciement, un temps de difficulté dans la famille. On peut, et j'espère que vous l'avez vécu, et je l'ai vécu à de maintes reprises, être dans l'épreuve, une épreuve qui peut nous faire pleurer et souffrir, et être malgré tout dans la paix de Christ. Et si on a ça, on a un trésor plus précieux que n'importe quoi d'autre sur terre. Ne faisons pas de la grâce en Christ une excuse pour vivre en pratiquant le péché. Et vous savez, la différence, on pourrait se dire, mais Fred, c'est impossible de ne pas pécher. Et je ne dis pas que c'est possible. Le Seigneur nous dit qu'il achèvera de nous rendre parfaits lorsqu'il viendra nous chercher, mais personne de sérieux ne dirait qu'on peut être chrétien et puis ne plus pécher. Et si vous pensez que vous ne péchez plus, je vous conseille deux pistes. Premièrement, lisez la Bible. Elle va mettre en lumière des choses que vous n'imaginiez pas et qui sont dans votre cœur. Deuxièmement, demandez à votre conjoint ou à vos proches. Voilà. Vous allez voir que vous êtes certainement moins parfait que ce que vous imaginez, si vous imaginez être parfait. Mais donc, ce n'est pas possible de ne plus pécher. Mais c'est une chose de pratiquer le péché. Une autre, c'est de tomber ponctuellement et de se relever. Si je suis habillé avec des vêtements très propres pour aller à une noce et que je dois traverser un terrain tout boueux pour arriver à l'endroit où a lieu la noce, je vais essayer de traverser en mettant mes pointes de chaussures le plus loin de la boue possible, de ne pas faire de grands pas, de ne pas patauger comme ça dans la boue pour avoir des vêtements qui restent le moins sales possible. Mais de l'autre côté, c'est sûr qu'il y aura quand même un peu de boue. Et peut-être que si j'ai trébuché, ma main ou une partie de mon costume aura de la boue. Si je traverse le même terrain en rampant, le résultat sera différent, on est d'accord. Je ne peux pas pratiquer le péché et être chrétien. Mes frères et mes sœurs, on doit régulièrement faire un examen de conscience parce que notre cœur naturel nous donne plein d'occasions de pratiquer le péché. Ah oui, mais ça, c'est pas très grave. Ah oui, mais ça impacte ta relation avec Christ. Le Seigneur nous aime de la même manière. Il nous aime avant la fondation du monde en Jésus-Christ. La raison de son amour pour nous, elle est en lui. Elle ne change pas. Je pense qu'on a, on l'a vu ce matin avec les présentations, une belle image dans l'humanité, même si elle est imparfaite dans certaines familles, mais malgré tout, de l'amour de Dieu pour nous, c'est l'amour des parents pour les enfants. On aime nos enfants avant qu'ils naissent, et avant qu'il commence à nous rendre quelque chose qui les rend dignes d'amour. Si on devait attendre pour aimer nos enfants qu'ils aient fait un truc utile pour nous, on attendrait pas mal, hein ? Le Seigneur nous aime comme ça. Beaucoup plus que ça, beaucoup mieux que ça. Mais dans l'amour des parents pour les enfants, il y a une image que le Seigneur a mise dans l'humanité et qui témoigne de son amour pour ses enfants. Et nous aime d'une façon inconditionnelle. Néanmoins, en tant qu'enfant de Dieu, du côté du Seigneur, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais d'obstacle, mais du mien. Pour être en relation avec quelqu'un, pour être en communion avec quelqu'un, il faut être deux. Le Seigneur lui-même donne un amour parfait, et moi. Est-ce que je laisse, entre lui et moi, s'accumuler des choses qui vont faire obstacle à sa grâce, qui vont enlever la paix et la joie de mon cœur? Est-ce que je sème dans ma vie des choses qui sont moches et qui vont amener une récolte qui fera de mal? Alors on pourrait se dire, est-ce que Paul est en train de nous décrire un salut par les œuvres? Vous êtes sauvés, mais il faut faire le bien, sinon, gare à vous, plus de paradis. Est-ce que c'est ce que Paul est en train de dire? Est-ce qu'on doit tous arrêter d'être évangéliques et retourner à l'Église catholique qui nous dit « Oui, il y a la grâce de Christ, mais il faut aussi pratiquer les bonnes œuvres, parce que Christ a fait 80% du boulot, mais vos bonnes œuvres, elles sont nécessaires, sinon vous irez au purgatoire, cette invention qui n'existe absolument pas dans l'Écriture. » Non, ce n'est pas ce que Paul nous dit, lui qui a si bien expliqué ce qu'était la grâce. Dans Éphésiens 2, 8, 9, il dit ce verset qui est un des plus magnifiques versets de l'Écriture qui résume ce qu'est le salut. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé parce que Dieu nous fait grâce, qui nous donne la foi et qui nous a aimés en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Waouh ! Quelle merveille ! Paul ne nous dit pas que nos œuvres vont changer le fait qu'on est enfant de Dieu ou non et nous faire perdre le salut, un salut qu'on ne peut pas sauver parce que Jésus dit que ce qu'il tient dans sa main, c'est le Père qui les lui a donné et que nul ne peut les ravir de sa main. Mais Paul, il est en train de nous exhorter à semer pour et avec le Saint-Esprit dans nos vies afin de récolter un fruit qui honore Dieu et qui nous bénisse, nous et nos proches. Il se soucie de la façon dont on est chrétien en attendant d'hériter l'éternité. Il s'agit de notre vie chrétienne actuelle et de notre sanctification et, en fait, notre vie éternelle. Elle ne va pas commencer dans l'avenir, elle a commencé le jour où Christ est rentré dans votre vie. Où vous avez pu dire « Oui, Seigneur, je te confesse mes fautes et je te demande pardon. Délivre-moi. Je reconnais ton autorité sur ma vie. Tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Votre vie éternelle, ma vie éternelle, elle a commencé ce jour-là, elle a commencé à ce moment-là. Peut-être que c'est, je ne sais pas comment vous vous êtes converti, est-ce que ça a été un bouleversement de quelques secondes, de quelques minutes, ou est-ce que ça a pris des mois ou des années, un cheminement. Mais à partir du moment où vous avez pu confesser Christ comme votre Sauveur et Seigneur, votre vie, la vie éternelle a commencé. Mais comme dit l'Écriture, nous ne voyons pas encore. Hein, il dit ça à propos du fait que toutes choses ne nous sont pas encore soumises à Christ. On n'a pas encore hérité complètement. En théologie, on appelle ça le déjà et le pas encore. On est déjà enfant de Dieu. On n'a pas encore hérité de tout ce que le Seigneur va nous faire hériter en Jésus-Christ. Mais on est déjà marqué du sceau du Saint-Esprit. Le Père nous aime comme il aime Jésus-Christ et il nous voit à travers le sang de son Fils avec les qualités de Christ. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on pourrait utiliser ça pour dire « Oh ben, j'utilise pour faire ma volonté, puisque de toute façon, il m'aime. » Non. Le Seigneur veut que notre vie avec lui rayonne déjà de cette vie éternelle, qu'on ait un avant-goût de ce qu'est l'éternité, cette paix d'être réconcilié avec notre Créateur. Bien sûr, ce qu'on va avoir dans l'éternité, c'est 100 milliards de fois plus. On n'arrive même pas à imaginer la gloire qu'on va partager. Mais dès à présent, si on veut savourer le fait d'être enfant de Dieu, rayonné de Jésus-Christ, proclamer l'Évangile par nos paroles et nos actes autour de nous, et être dans la paix des enfants de Dieu, on a besoin de semer la bonne semence. Celle qui se sème sur la base de l'Écriture, avec l'aide du Saint-Esprit, et dans la communion d'une Église qui a conscience de devoir encourager les frères et les sœurs. Moi, je crois que le but de l'Église, il est triple. Proclamer l'Évangile, édifier la foi des chrétiens et des enfants de Dieu, glorifier Dieu. Si on avait ces trois objectifs dans tout ce qu'on fait dans l'Église et dans notre vie personnelle, ben, ce serait vraiment, je pense, excellent. Paul y dit qu'on doit pratiquer le bien envers tous et en particulier envers les frères et sœurs dans la foi. On doit s'aimer les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Mais que c'est dur, mes frères et sœurs. Que c'est dur d'aimer des gens qu'on connaît bien. C'est très très facile d'aimer des gens qu'on ne connaît pas. Vous découvrez quelqu'un, vous l'aimez, en fait, vous ne lui voulez pas de mal. Hein, d'accord ? Vous supportez sa présence près de vous, mais quelqu'un que vous connaissez, dont vous connaissez les défauts, dont vous savez déjà ce qu'il va dire et que ça va vous énerver, et que vous priez quand même pour l'aimer, sans entrave, ça, c'est dur. Et c'est ce que le Seigneur fait pour nous. Vous croyez qu'on est aimable devant Dieu ? Est-ce que la Bible nous dit « Oh Fred, tu étais tellement merveilleux que j'ai décidé de te sauver » parce que ta perfection rayonnait jusqu'au ciel ? Pas du tout. Dieu prouve son amour pour nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On doit aimer comme ça. Et c'est dur. Mais c'est agréable à Dieu. Et c'est une façon de semer de bonnes choses qui vont bénir autour de nous et qui vont nous rendre, nous faire savourer cette communion avec le Seigneur qui l'honorera. Et je veux terminer avec « Nous récoltons la vie éternelle ». Paul dit, bien écrit, « Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'Esprit récoltera de l'Esprit la vie éternelle ». Alors, encore une fois, hein, ce n'est pas en train de dire « si vous ne faites pas ça, vous perdez la vie éternelle », mais la vie éternelle dont on va hériter, si on est enfant de Dieu, eh bien, elle peut déjà rayonner dans nos vies de tous les jours si on sème avec et pour le Saint-Esprit sur la base de ce que nous dit la parole. Semer dans nos vies, vivre en communion avec Christ. Et c'est déjà une manière de goûter dès à présent le bienfait d'être enfant de Dieu et un avant-goût de notre héritage céleste. Et ça, et rien d'autre, produit une vie vraiment satisfaisante. Cette vie éternelle dont Christ est la source. Prière. Notre Dieu, notre Père, nous ne voulons pas nous moquer de toi en faisant de la grâce une occasion de suivre les mauvais penchants de notre cœur naturel. Donne-nous de pratiquer le bien en orientant nos cœurs et nos pensées vers Jésus-Christ, afin de récolter la paix et la joie de t'appartenir. La vie éternelle, c'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous voulons vivre en communion avec toi en pratiquant par ton esprit ce qui est bien envers tous et surtout envers les frères et sœurs dans la foi qui forment l'Église. Merci pour la vie que tu nous donnes et qui ne cessera jamais. En Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions. Amen.